I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui peut être plus fort que l'amour véritable? Vous qui êtes fan de Aix, bien sûr, vous allez me dire « bah rien du tout, Agathe hein !» Mais c'est sans compter sur l'emprise, la mainmise, le joug que certaines personnes peuvent opérer sur d'autres. Ça s'appelle des gourous, et Solange va vous en parler.
On est en 2016. Comme toujours, j'essaye de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je suis avocate depuis quelques années. En 2016, je décide de faire un voyage solo en Thaïlande et je rencontre un garçon que j'avais déjà rencontré l'année d'avant. Et on se retrouve par hasard sur cette île et il se passe quelque chose. C'est un très bel homme, donc j'ai un vrai coup de foudre. Mais très rapidement, je comprends qu'il n'en a rien à faire de moi. Et donc, je décide de quitter cette île assez rapidement. Puis je rentre à Paris et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, je vais faire une pause, les garçons... Vraiment, ça marche pas. Puis je me dis, il faut que j'arrête de m'arrêter au physique aussi. Moi, il faut savoir que je ne fais jamais de projet. Même si idéalement, je pense, je me suis toujours dit que je voudrais une belle histoire d'amour. Faire des enfants ou pas, c'était pas un sujet, mais en tout cas une belle histoire d'amour. Donc je vis chaque histoire assez passionnément, même si parfois je sais d'avance que c'est des coups foireux. Et donc c'est ce qui s'est passé en 2016. Et donc je décide de faire une pause et de prendre un peu de recul et de savoir vraiment ce que je veux. Je suis assez entière, donc c'est tout, c'est rien. J'aime les gens très honnêtes, qui disent les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles les pensent. Je me consacre à mon travail, à ma vie sociale et à mes voyages, parce que ma grande passion, c'est les voyages. Dès que j'ai un peu de temps libre, je voyage. J'ai arrêté d'attendre mes copines, et donc quand je peux, je pars seule, généralement à l'autre bout du monde. Je suis très indépendante, très libre, j'adore la liberté, c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais, et que très vite, je me suis mis à mon compte pour pouvoir me sentir libre de faire ce que je veux, quand je veux. J'ai une amie qui m'invite à un dîner chez elle et je lui dis « Écoute, je peux venir, mais je suis avec mon neveu. » Elle me dit « Pas de problème, il y a les enfants de toute façon. » Ce qui est très drôle, c'est lorsque j'arrive, avant de rentrer chez mon amie, on retire les chaussures qu'on laisse dans un sas et je vois une paire de Santiago et je me dis « Mais qui met des Santiago encore à notre époque ?» Et donc j'arrive et donc je rencontre Marc. Et donc je comprends que c'est lui qui est le propriétaire des Santiago. Et donc il se présente, je me présente, et puis de mon côté rien de particulier. La soirée se passe et puis il me pose rapidement de nombreuses questions assez personnelles. Et puis à chaque fois qu'il me parle, il est physiquement très proche de moi. Évidemment, j'essaye de prendre de la distance. Il me parle de lui, il me dit qu'il habite pas en région parisienne mais en Normandie. Et il me dit qu'il travaille donc avec nos amis communs, en tout cas l'époux de mon ami, avec lequel il est amené à voyager souvent, mais sa grande passion, c'est le cinéma et la peinture. Donc il me dit qu'il a fait les Beaux-Arts, qu'il a pris des cours de théâtre et qu'il fait du cinéma de temps en temps. Et donc, lorsque je comprends que c'est un artiste, je ne l'envisage même plus, parce que je m'étais toujours dit « je peux sortir avec tout le monde, sauf un artiste ». Donc à ce moment-là, je discute avec lui, mais en me disant sans plus. Et surtout dans ma tête quand même, parce que je me fais toujours un peu des films quand je rencontre quelqu'un, je me dis « Ah, il te plaît pas, mais je suis sûre que s'il se passe quelque chose, il va te faire souffrir. » Physiquement, il est brun, 1m75, donc pas très grand. Moi, j'adore les hommes très grands, pas spécialement beaux. Donc qui rentre pas du tout dans mes critères. La soirée se termine, je m'en vais, et puis quelques jours plus tard, mon amie Monique me dit « Écoute, je crois que Marc aimerait bien te revoir. » Et là, je lui dis, ah non, c'est vraiment pas possible. Il est bien gentil, mais non. Et puis, elle lui dit assez gentiment que je ne suis pas intéressée. Je pensais en rester là. Et mon anniversaire, en fait, arrive très rapidement fin novembre. Et Marc m'appelle pour me souhaiter un bon anniversaire et m'inviter à dîner. Alors, il faut savoir que je suis très sensible aux voix. Et donc, lorsqu'il m'appelle, il se passe un truc dans sa voix et je décide de dire oui. Et donc, on se retrouve et je suis immédiatement sous le charme, de manière très étonnante. Il m'offre un cadeau pour mon anniversaire. Donc, très touchée, très séduite par toutes ces petites attentions. Il me pose pas mal de questions, il s'intéresse à ma vie, à mon travail. Ça se passe extrêmement bien. Et puis, à la fin du dîner, il me dit, écoute, je loge chez mon frère en ce moment, puisqu'il n'habite pas Paris, donc est-ce que tu veux venir prendre un dernier verre chez mon frère? Et donc je lui dis, écoute, je te vois venir, il est hors de question que j'aille dans ta garçonnière. En revanche, si tu veux, tu peux venir chez moi, en tout bien, tout honneur. Il vient à la maison, on passe la soirée ensemble, ça se passe super bien, et puis le lendemain, il me taquine en disant, ah oui, en tout bien, tout honneur, c'était une belle soirée. Je dis oui. Mais encore une fois, à ce moment-là, je me dis, bon, ben voilà, on a passé la soirée ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il va se passer quoi que ce soit. D'autant plus que moi, je savais que je partais en vacances en Thaïlande 3 semaines plus tard. Donc vraiment, il s'en va, la journée se passe, et en fait, il continue à maintenir le lien, et il m'envoie des messages pour savoir ce que je fais de ma journée. Je sens qu'il se passe quelque chose, que je suis très attachée à lui. Après, je vois encore beaucoup nos différences, c'est-à-dire son côté artiste. Moi, avocate. Quand il apparaît en général, c'est parce qu'il a des missions à l'étranger avec notre ami commun, puisqu'il a un travail alimentaire quand même, à côté de son côté artistique. Et donc, ce travail le pousse à voyager souvent. Donc, c'est pour ça qu'il est à Paris entre deux avions. On ne s'est plus quitté jusqu'à ce que je parte en Thaïlande. Et donc, je pars en Thaïlande et on fait des FaceTime tous les jours. On se parle très régulièrement et très rapidement, il me dit qu'il est tombé amoureux de moi. Et donc, je le lui dis aussi, même si avec le recul, je pense que c'était un peu prématuré, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis très attachée à lui. Je ressens les papillons dans le ventre. Et surtout, comme il ne correspond en rien à mes précédentes relations, je me dis peut-être que c'est le bon. Et je sens que je peux être vraie avec lui, qu'il est vrai avec moi. Et vraiment, je me sens hyper bien avec lui, très détendue, apaisée. C'est un peu mon rayon de soleil. Donc à distance, nos liens ne font que se renforcer. Mes amis sont là, assistent à ça et me voient rayonner. Je me dis que c'est un type vraiment exceptionnel. Pour être sûr de ne pas me tromper, je pose quand même les questions qui fâchent et je lui demande s'il veut des enfants. Et donc il me dit, écoute, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait donné jusque-là envie d'en avoir. Donc en gros, la question n'est pas tranchée. Il me rassure sans me rassurer, mais je me dis, bon, peut-être que si ça se passe bien entre nous, peut-être, pourquoi pas, on ferait un enfant et on serait tous les deux parents. On est 24 heures sur 24 l'un avec l'autre. Je travaille à distance, je suis à la maison. Tant que j'ai pas de rendez-vous, je peux m'arranger pour ça, ni d'audience. Donc on passe 10 jours merveilleux ensemble. Et puis, au bout de ces 10 jours, je sens quand même qu'il a besoin de se retrouver, que j'ai aussi besoin de me retrouver. Et sans se le dire, on comprend. Donc il rentre chez lui en Normandie. Et puis au bout d'un mois, je lui dis, bon bah écoute, j'aimerais bien quand même savoir... où tu habites, quoi. Je veux connaître ta maison. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve dans son petit patelin, dans sa maison. Alors, en grande citadine, bizarrement, je m'y retrouve très bien. Je suis très bien, c'est très calme. On n'entend que les oiseaux. Il y a un seul voisin, des vaches autour. Je me sens extrêmement bien, je me sens apaisée. Je pense qu'au bout d'un an, je fais la navette, il fait la navette, puisqu'il doit travailler, etc. Mais essentiellement, c'est surtout moi qui suis chez lui. Et puis, on a le premier accrochage au bout d'un an. Il va avoir, à ce moment-là, 47 ans. Et donc, je décide de lui organiser son anniversaire. Son frère qui réside à Paris, je lui pose la question et je lui dis, écoute, qu'est-ce qui ferait plaisir à Marc pour son anniversaire? Il me dit, il aime pas trop les anniversaires, mais je sais qu'il est très amoureux de toi, donc tout ce que tu trouveras, il sera content. Et donc, je dis à son frère, écoute, j'aimerais bien l'emmener en week-end, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, très bonne idée. Et donc j'organise un week-end à Cabourg, en bord de mer. Et donc peu de temps avant, je dis à Marc, écoute, j'ai une surprise pour toi, pour ton anniversaire. Je sais que t'aimes pas ton anniversaire, mais t'inquiète pas, ça devrait te faire plaisir. Et quelques jours avant, il est né le 12 octobre, et il me fait une crise. Il me dit, écoute, non, ça va pas le faire, il faut qu'on fasse une pause. Et donc moi, à ce moment-là, je suis chez ma mère avec une amie et elle me voit me décomposer. J'essaye de m'isoler pour pleurer, mais je n'y arrive pas. Et donc, il me dit, il se passe toujours un truc bizarre, mon anniversaire. J'aime pas mes anniversaires, ça me déprime. Ça me rappelle ma naissance. Et là, je me dis, bon, il est complètement à côté. Ça y est, je suis dans l'artiste. Et donc, il dit pas vraiment. Et moi, comme je suis dans une grosse peine, je crois que je suis même pas disposée à écouter ce qu'il me dit parce que j'arrive pas à comprendre. Je décide d'appeler son frère avec qui j'avais de bonnes relations. Et je lui dis, écoute, ton frère et moi on s'est séparés parce qu'il n'a pas voulu venir pour le week-end et je suis profondément triste. Et il me dit, écoute, ne t'inquiète pas, mon frère est étrange mais il t'aime beaucoup. En revanche, je suis assez inquiet parce que je pense qu'il fait partie d'une secte. Je te le dis de toi à moi, ne lui répète pas. Nos parents nous avaient fait une donation partage il y a quelques années et on n'a jamais su ce que Marc avait fait de l'argent. Il est régulièrement fauché alors qu'il travaille et souvent il demande de l'argent aux parents. Ses amis, je les connais pas, mais on ne sait pas où habite Marc. Il est toujours très taiseux sur certaines choses. Je pense qu'il fait partie d'une secte. Quand il me dit ça, je sais que Marc fait partie d'un environnement différent, mais à ce moment-là, je vois cet environnement comme quelque chose d'à part, juste une petite communauté d'artistes, et je me dis c'est son jardin secret, donc je vais le respecter. À aucun moment, je me dis que c'est un truc bizarre ou malveillant. Et donc, je pars à Cabourg avec ma sœur aînée, avec qui on a des relations tendues, mais je me dis, bon, ça peut peut-être nous rapprocher, et en fait, à Cabourg, ça se passe très mal. Et au bout de 24 heures, je m'en vais, et je dis à Marc, écoute... Il faut que je parte, mais comme c'est pas très loin, à distance de chez lui, je lui dis tu viens me récupérer. Et donc il est venu me récupérer. Donc de Cabourg, je vais chez lui et on se réconcilie. Et c'est reparti comme en 40 et c'est formidable, sans jamais avoir compris pourquoi il avait refusé de me suivre à Cabourg. Je commence à poser des questions, mais il est toujours très évasif. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit et qui fera tout pour apaiser les choses. Et donc, à travers l'amour qu'il me porte et l'amour que je lui porte, eh bien, on se réconcilie et je pose pas plus de questions. Je sens qu'il y a des choses qui vont pas, mais finalement, je crois que j'ai peur d'être confrontée et que c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai une relation que j'estime apaisée, donc je veux pas lui rentrer dedans et je laisse faire les choses. Et donc, on continue une relation assez apaisée et les tensions arrivent à chaque fois que je veux voyager, puisque moi, j'ai toujours envie d'ailleurs et je lui dis, écoute, je suis très heureuse avec toi, hein, en tête à tête, c'est très bien, tout va très bien, mais de temps en temps, ce serait bien qu'on se fasse des petits voyages et qu'on voyage ensemble. Et il commence à m'expliquer que non, il peut pas partir parce que il est très sensible à la misère d'autrui dans le monde. Et donc, je trouve l'astuce, c'est de le suivre, lui, dans ses voyages professionnels. Et donc, je le suis en Inde, le suis un peu dans ses voyages en Europe. Et à travers ça, finalement, je peux voyager et être avec lui. Mais je suis toujours pas satisfaite et j'arrive pas à comprendre pourquoi elle veut pas partir avec moi, pourquoi on peut pas faire des choses ensemble. Il décide aussi de travailler de moins en moins avec notre ami commun par lequel on s'est rencontrés. Et donc il se terre de plus en plus à la campagne, il vient du coup de moins en moins à Paris. Quand je souhaite le voir, il me dit qu'il est fatigué, qu'il veut se reposer. Je reste rassurée parce qu'on fait des FaceTime tout le temps. Je me suis jamais dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, je me suis juste dit, bon bah voilà, l'artiste que je voulais pas. Il se remet à la peinture. Et donc, à ce moment-là, il me dit « Écoute, je voudrais faire des portraits de toi. » Et donc, ça me permet, moi, de le revoir plus longtemps. Et donc, c'est comme ça que je pose pour lui assez régulièrement pendant quelques mois. Il fait 3 toiles de moi qui m'ont demandé de poser durant de nombreuses heures. Donc, on n'a jamais été déconnectés, mais ça ne fait que renforcer notre lien amoureux. Mais je ne peux pas taire non plus mes envies. C'est-à-dire « Ok, on est là, ça fait 2-3 ans maintenant, on est bien, on est très heureux. » Je sens que t'es très amoureux de moi, je suis très amoureux de toi. Il est temps que je rencontre tes amis. Il avait déjà rencontré les miens auparavant, donc il est temps que je rencontre tes amis. Il me disait qu'il avait des projets cinématographiques avec ses amis, mais il voulait pas m'y associer, quoi. Et il me disait, écoute, les tournages sont très compliqués, sont très prenants, le réalisateur va me gueuler dessus, tu vas peut-être pas comprendre. Bon, il noyait le poisson et du coup, on a mis du temps avant de rencontrer ses amis. Il organise une projection d'un film, il m'invite à cette projection, mais je ne comprends rien au film. La seule chose qui est un peu cartésienne dans ce film, c'est une scène d'amour, de sexe même, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec son ex-compagne. une scène qui me choque particulièrement parce qu'elle est très explicite et je comprends pas en fait. Je comprends pas le film, je comprends pas cette scène. Alors il m'explique qu'effectivement quand il l'a faite on n'était pas ensemble, je l'entends, mais enfin, ce soir-là il défend son film. D'ailleurs lui il parle très peu, c'est le réalisateur qui parle beaucoup, qui est très fier de ce film. À la fin de la projection, Marc me dit « Écoute, je vais te mettre dans un taxi, tu vas rentrer. » Donc je comprends qu'on ne rentre pas ensemble. Et il me dit « Non, mais il faut que je raccompagne le réalisateur. On a beaucoup de routes parce qu'on est en Normandie. » Et je le vois à un moment discuter avec le réalisateur. Et en fait, j'étais frappée parce que le réalisateur lui a parlé comme si c'était son sous-fifre. Et donc je dis en off à Marc « Mais pourquoi elle te parle comme ça ?» Et il rigole, mais non, mais t'inquiète pas, c'est rien, ma chérie, t'inquiète pas. Il est juste un peu fatigué, il n'a pas l'habitude de Paris, tu comprends, c'est très prenant. Et puis, souvent, on en discute parce qu'il fait des choses pour son réalisateur. Il est toujours chez lui, il y a des réparations à faire, de sa toiture. Un jour, il m'emmène, on va acheter des plantes, je pensais que c'était pour sa maison. Et en fait, à la fin, il me dit, non, c'est pour le réalisateur. Et je lui dis, mais je comprends pas, en fait. T'as quel lien avec cette personne ? Et ce jour-là, je m'énerve vraiment. Je lui dis, mais vous couchez ensemble ? La dernière fois, tu lui achètes un costume, là, tu lui achètes des plantes. Il me dit, mais t'inquiète pas, il me rembourse. Je fais, oui, c'est ça. Enfin, c'est pas juste une question financière. J'arrive pas à comprendre votre relation. Et puis, lors d'un séjour à Prague, professionnel, où je l'accompagne, on discute de son réalisateur et je lui dis, mais c'est qui, en fait ? C'est ton gourou, quoi. Et là, il me regarde, il sourit, il me dit, oui, t'as tout compris, c'est mon gourou. Et là, je me mets à pleurer. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai des lectures un peu ésotériques parce que je me lance à fond dans la pratique du yoga, mais je m'intéresse aussi à l'aspect non physique. Et donc, j'avais lu un ouvrage sur la nécessité d'avoir un gourou. Et donc, quand il me dit ça, je suis choquée, mais en même temps, je suis pas choquée parce que je prends le côté positif du gourou. Et donc, pour moi, je le vois comme quelqu'un qui l'accompagne dans sa vie spirituelle ou... Et il me dit, oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Grâce à lui, j'ai connu l'éveil spirituel, etc. Donc, je ne le crois pas trop, mais j'ai envie de le croire. Et je me dis, bon, tant que c'est bienveillant, qu'il est à distance, que tout se passe bien, ma foi, pourquoi pas. Et donc, Marc décide de l'inviter à déjeuner afin que je le rencontre. Et donc, il vient à la maison, enfin chez Marc. Et puis, j'avoue, je suis un peu stressée. Et au départ, on discute un peu de tout et de rien. Et puis... Il me parle de lui et il me dit que depuis l'âge de 6 ans, il ne pense plus. Il a un mental parfaitement calme en toutes circonstances. Et il me dit qu'il rencontre des gens, qu'ils organisent des réunions à l'aide notamment de Marc pour les aider dans leur vie. Et si jamais je le souhaite, on peut se rencontrer ou tu peux m'écrire pour qu'on discute. Je me dis, peut-être que... Ça correspond à ce que je cherche, parce que je me cherche également d'un point de vue spirituel, que vraiment le yoga, ce que je connaissais du yoga, c'était les asanas, et que là, je suis donc les postures, et donc là, je suis dans une idée où vraiment, spirituellement, je me cherche. Donc je me dis, peut-être que c'est un signe, et peut-être que c'est le gourou bienveillant que j'espérais rencontrer un jour dans ma vie. Donc encore une fois, je porte pas des jugements, mais je le trouve... étrange, mais en revanche, ce qui me choque, c'est de voir que Marc n'est plus lui-même en présence du gourou. Il est très nerveux, il rigole tout le temps pour rien, mais vraiment fort, quoi. Tout le temps. Et je le regarde, je me dis, mais qui est mon mec, en fait ? Et je sens qu'il n'est plus lui-même, vraiment. Il a envie d'impressionner son gourou, et moi, c'est ça qui me choque. Et donc, le gourou, je le vois finalement deux fois, trois fois, puisqu'il y a un autre déjeuner qui est organisé. Mais toujours à ce moment-là, je le vois comme quelqu'un de bienveillant. Étrange, mais bienveillant. On n'a aucun projet. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais habité avec personne, mais j'aimais bien l'idée quand même d'habiter avec lui, et surtout, j'aimais beaucoup la campagne. Et j'aimais l'idée qu'on ait une maison ensemble, tout en gardant mon appartement à Paris. Et donc lui au départ il comprend pas, il me dit mais de toute façon t'es à Paris, moi je suis ici. Je fais oui mais c'est chez toi, c'est pas chez nous. Et donc je commence à évoquer l'idée et là je lui laisse pas le choix, je veux qu'il me réponde. Et il me dit on est en train de construire le plus important. Et il me dit est-ce que tu crois que les relations amoureuses c'est juste être tout le temps ensemble, faire des enfants, habiter ensemble et puis quand ça marche pas on recommence avec quelqu'un d'autre ? Non, on construit quelque chose de plus important. On est en train de construire nos fondations. Donc, si on veut que ça marche entre nous, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis très amoureuse de lui, il est très amoureux de moi, il me rassure, j'arrive à lui faire part de mes peurs, de ma peur de l'abandon notamment. Et on est vraiment très sincères, donc pour moi, on n'habite pas ensemble, mais c'est mon amoureux, l'amour de ma vie, et je suis l'amour de sa vie. Donc même s'il y a des hauts débats, mais globalement, pour moi, il ne me quittera jamais, je ne le quitterai jamais. Et puis il y a le Covid. Et qui me donne ce que je veux en fait, parce que je vais pouvoir vivre avec Marc enfin. Il me dit écoute, tu viens à la maison, et sauf qu'on savait pas qu'on allait être confinés durant 3 mois. Et donc on passe le Covid ensemble. Moi je suis hyper heureuse d'être avec lui, d'être dans sa maison. Là je vois un peu plus ses amis, et il se passe un truc, c'est que déjà je commence à trouver de l'argent chez lui. Et un jour, quand on va chez un de ses amis, il lui donne des fruits. Et dans le sac, je vois des billets, des liasses de billets de 50 euros. Et là, je commence à m'interroger. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Non, t'inquiète pas, ma chérie. Je fais, non, il n'y a pas de t'inquiète pas, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, je suis avocate, donc je ne vais pas être avec quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et là, il m'explique qu'en fait, ils font des réunions avec le gourou et ceux que je pensais être ses amis, mais qui sont ses amis de la campagne. Ils font des réunions pour aider les gens. Et donc, les gens payent lors de ces réunions. Ils payent essentiellement en cash. Et il me dit, ça me permet d'arrondir mes fins de mois. On se répartit un peu les sommes. Et comme je n'ai pas pu être aux réunions, et ben, c'est ce qui me revient. Donc je trouve ça étrange, évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui ment, en tout cas pas à mes yeux, donc j'ai aucune raison d'en douter. Mais je commence à poser des questions, et je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec son frère, et donc durant la période de Covid, donc je commence à dire à Marc, mais c'est quand même très étrange, je trouve de l'argent, je sais que t'as travaillé beaucoup avant même de faire ces réunions-là, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas propriétaire de ta maison, je ne comprends pas pourquoi c'est compliqué, on se fait pas de resto... On voyage pas. Il y a plein de choses que j'arrive pas à comprendre, quoi. Et pareil, il veut noyer le poisson. Et puis, ce jour-là, on s'engueule. Il me dit, écoute, on va aller chez un de nos amis. On va l'aider pour le jardin, puisqu'ils avaient un jardin communautaire. Et je lui dis, écoute, j'ai pas envie d'y aller. Il insiste, et puis on arrive chez son ami. Et il me dit, je vais vous laisser discuter entre vous. Et je me suis dit, mais quelle idée. Enfin, je le connais pas, ce type. Pourquoi il veut me laisser? Donc il nous laisse, son ami commence à me poser des questions sur ma relation avec Marc, et je lui dis, écoute, Marc est quelqu'un d'exceptionnel, mais il y a plein de choses que je ne comprends pas, plein de choses mystérieuses, je ne sais pas ce qu'il fait de son argent, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas voyager avec moi, pourquoi on ne peut pas habiter ensemble, pourquoi on n'a pas fait d'enfant, et donc il m'écoute et il dit rien, et on évoque le gourou, et il me dit qu'il l'a beaucoup aidé dans sa vie aussi personnelle, que grâce à lui il a atteint l'éveil spirituel. Et je lui dis, mais comment tu sais que t'as atteint l'éveil spirituel? Il me dit, ça se sent, je le sens. Et là, je commence à dire, mais n'importe quoi. Mais enfin, tout ça, c'est un dialogue interne que je me fais dans ma tête. Mais je me dis, mais ils sont tous barrés, en fait. Durant le confinement, nos journées étaient organisées de la sorte. Moi... ménage, yoga, c'était ça mes activités et travail. Et lui, il était tout le temps au téléphone, il était fatigué et il pleurait beaucoup. Et donc, j'ai fini par lui demander qu'est-ce qui se passe en fait. Au début, je mettais ça sur le compte du confinement, sur sa sensibilité au regard de ce qui se passait dans le monde, parce que je sais qu'il était très sensible, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Il finit par me dire en larmes, le gourou ne veut plus me parler. Et donc, il pleure et il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est comme un père pour moi. Donc moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, mais évidemment, je ne lui dis pas. J'essaye de le consoler. Il pleure beaucoup. On dort ensemble, mais il ne me touche quasiment plus. Enfin, on se fait des câlins, mais on ne fait plus l'amour. Et moi, je pose des questions. Enfin, je comprends plus ce qui se passe, quoi. Mais on continue. Et puis, voilà, à un moment donné, il me dit, ça va plus, il faut que tu partes. Mais je reste et je l'aime et il me dit qu'il m'aime et on est encore très amoureux. Et puis je décide, parce que je dois partir en vacances en Martinique, et je lui dis, écoute, j'ai besoin de me faire tester pour le Covid, parce qu'à Paris c'est impossible, est-ce que tu accepterais que je me fasse tester dans ta région? Il me dit oui, pas de problème. Et quelques jours avant le test, il va voir son ex-compagne du film et il revient et il me dit, en fait tu peux pas te faire tester. Et je lui dis, pardon? Je pars dans quelques jours, bien sûr que je vais me faire tester, que je vais y aller. Il fait, non, mais c'est plus grave que ça, quoi, en fait. Tu te rends pas compte, si jamais t'es positive, ils vont te demander qui tu as côtoyé, tu vas devoir donner nos identités. Et je lui dis, mais c'est quoi le problème? Vous avez des choses à vous reprocher? Je lui dis, mais je commence à comprendre que je fais pas l'unanimité. T'as pas besoin de le dire. J'ai bien compris que tes amis ne m'aimaient pas. J'ai bien compris qu'il y avait un souci, que je n'aimais pas mon train de vie, je ne sais pas ce qui coince, mais j'ai bien compris que tu leur demandais leur avis avant de décider. J'ai bien compris. Et là, il finit par me dire, en effet, c'est pas simple. Et on en reste là, je m'isole, et je reviens et je l'entends au téléphone. Et cette fois, je tends l'oreille et je l'entends parler de notre relation avec une amie à lui, qui est membre de la communauté. Il lui explique ses inquiétudes en lui disant que c'est compliqué pour lui. Il lui dit, tu comprends, je suis à la fois son amant et son gourou, donc c'est compliqué. Et là, j'arrive et je pète un câble et je lui dis, mais à quel moment tu parles de notre relation? Jamais tu fais ça, en fait. C'est notre intimité. Si tu penses qu'on a un problème, d'abord tu en discutes avec moi, mais tu ne parles pas de notre intimité. Et je lui dis, écoute, je ne te comprends pas, je crois qu'il est temps de se séparer parce que là, je ne te comprends plus. Et là, il me dit, oui, t'as raison, il faut qu'on fasse une pause. Et là, je tombe des nues parce qu'à aucun moment, je pensais qu'il pouvait abonder dans mon sens et me dire, oui, on se sépare. Là, je suis effondrée. Je ne comprends pas pourquoi, mais je comprends le pouvoir de ses amis et je réalise à ce moment-là qu'ils ont une grande influence sur lui. Et lui, il fait preuve aussi d'autorité à ce moment-là, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est « tu ne te feras pas tester » et surtout « est-ce que pour moi et pour notre amour, tu n'annulerais pas la Martinique ?» Et je m'en vais et je me fais tester ailleurs et surtout je pars en Martinique. Il m'appelle, il est très très froid. Je suis en Martinique, je passe des vacances, non pas horribles, mais très compliquées. Il me reproche d'être qui je suis. Il me reproche d'être une grande gueule, d'être indépendante, de ne vouloir en faire qu'à ma tête. À ce moment-là, il est très froid, il ne l'a jamais été, je ne le reconnais plus. Et à partir du moment où je rentre en France, là, c'est silence radio durant des mois. Et le gourou m'appelle. Et le gourou m'explique que notre relation a pris trop de place. Et il m'a donné l'image de la cordée. Il m'a dit, eh ben, tu vois, en montagne, il y a ce qu'on appelle la cordée. Et donc, pour qu'il y ait une cordée, il faut qu'on soit tous reliés. Marc, en étant avec toi, il est sorti de la cordée, et donc c'est déséquilibré. Et donc, ça nous a posé un problème. Mais à aucun moment, je n'ai dit à Marc de te quitter. Donc moi, à ce moment-là, toujours un peu naïve, je suis rassurée. Je me suis dit, OK, il n'a pas demandé à Marc de me quitter. Donc je me suis dit, il faut que je prenne mon mal en patience. Mais j'étais au quatrième dessous, c'est-à-dire que je ne dors plus, je ne mange plus, je pleure tout le temps. Et je perds du poids à vue d'œil, quoi. Je me dis, je vais mourir sans lui. J'avais l'impression d'avoir un trou béant au milieu de la poitrine. Mais je suis rassurée, le gourou, il me dit, il t'aime toujours, il va bientôt t'appeler. Les jours passent, les semaines passent, il ne m'appelle pas. Marc m'appelle. Et je lui dis, ah, tu t'es enfin décidé, t'as arrêté de faire le lâche, tu veux que je vienne, t'es décidé à me parler. Et il m'a dit, je te demande de ne pas venir, si jamais tu viens, tu ne me revois plus jamais. Et à partir de ce moment-là, on parle de longues heures et durant de nombreux jours au téléphone, où il m'explique que désormais, si on devait reprendre une relation, ce ne sera plus comme avant. Il n'y aura plus que toi et moi, on ne sera plus que tous les deux. Et je lui dis, quoi, ce sera comme une relation à trois? Il me dit oui. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'en plus, il faut savoir qu'il est très méfiant, que par téléphone, on parle par code, en fait. Et que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas dire le mot secte, je ne peux pas dire le mot communauté. Et qu'il faut que je fasse preuve d'imagination pour les faire comprendre ce que j'ai envie de faire comprendre. Parce qu'il se méfie des téléphones portables. Et que même si on part sur le téléphone fixe, il s'en méfie. Et donc, il me faut comprendre que nous deux, c'est plus comme avant. En gros, qu'on devra rendre des comptes. Et une des membres de la communauté m'appelle en disant, écoute, on en a marre d'écouter tes histoires de couple. Est-ce que tu es prête à venir t'installer ici, tout quitter, expliquer à tes parents pourquoi ils ne pourront jamais venir te rendre visite dans ton nouveau chez-toi à la campagne et véritablement nous rencontrer? Et là, je commence vraiment à flipper. Tout ça, je le garde pour moi. Pourtant, j'ai une psy, mais je lui en parle très peu. Mes amis, je leur en parle très peu. En fait, j'arrive pas à me dire, à reconnaître que je suis tombée dans un truc chelou. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Et je dis quand même à Marc, non mais écoute, elle m'a mis la pression, là. Ça commence à me faire flipper. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est juste voilà, pour te rencontrer. Je fais, non, mais c'est quand même très bizarre. Et il me dit, tu n'as rien à perdre, tu peux les rencontrer. À ce moment-là, quand elle me dit ça, je comprends qu'il fait partie d'une secte. Ce qui est très étrange, c'est qu'à ce moment-là, en fait, comme on parle par code au téléphone, toutes les questions que je pourrais poser, je ne peux pas les poser. Donc je décide de lui écrire pour lui poser les questions, mais il ne me répond pas. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est me retrouver mon couple. Donc la secte, je la relègue dans un second niveau, en fait. j'en prends pas la mesure à ce moment-là. Je sais qu'ils ont une influence, mais je la minimise. Ce qui m'intéresse, c'est retrouver mon mec. Et donc, je me concentre sur ça. Il vient à Paris, contre toute attente. Ça fait 6 mois qu'on s'est quittés. Il vient à Paris, donc moi, je suis la plus heureuse. Il m'envoie un message. J'arrive. J'ai le cœur qui bat. Je me dis, je vais le retrouver. Et donc, quand il vient, c'est absolument pas de la secte dont je veux parler. C'est notre amour, en fait. J'ai toujours pas compris que la secte était au-dessus de tout. Donc, je le retrouve. C'est génial. Il me dit, en fait, j'ai demandé l'autorisation pour venir te voir. Et là, je fais, quoi ? T'as demandé l'autorisation de venir me voir ? Il me dit, oui, donc je peux pas rester plus de 24 heures. Au moment où je comprends vraiment qu'il est sous emprise et que c'est une secte, c'est au moment où je me rends chez lui pour la dernière fois. À ce moment-là, je ne sais pas que c'est la dernière fois. On passe des moments extraordinaires. Mais il me dit, écoute, je t'aime beaucoup, mais en fait, c'est soit eux, soit nous. Je dois choisir. Mais je comprends que c'est fini, en fait. J'ai tout essayé. Il me dit qu'il m'aime, mais j'ai bien compris qu'il ne pouvait plus les quitter. Mais... Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est terminé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je comprends, un, que c'est vraiment une secte dans tout ce qu'il y a de plus mauvais. Parce que pour moi, c'était... Jusque-là, je voyais ça comme une communauté, quelque chose de bienveillant. Je comprends que c'est une secte dans tout ce qu'il y a de plus mauvais, que c'est à cause d'eux qu'il me quitte, qu'il était sous emprise. Et je comprends pourquoi il ne pouvait plus voyager. En fait, tout ça revient comme un boomerang. Je connecte les points entre eux, quoi. Tout ce qu'il a pu me dire jusqu'à présent, je remets tout en cause et je comprends tout à ce moment-là. Et tout est extrêmement douloureux parce que je ne peux pas lui en parler, mais je comprends. Que le gourou est un chef d'orchestre, que c'est lui qui donne les ordres. Je comprends pourquoi il a arrêté de travailler avec nos amis communs, parce que c'était à la demande du gourou qu'il fallait aider la communauté sur d'autres projets. Je comprends que ce que son frère m'avait dit était vrai, que tout l'argent que ses parents, puisqu'il était quand même bien né, que ses parents lui avaient fait des donations et qu'il avait tout investi. Et je comprenais pourquoi il avait tout investi dans la société qui en réalité appartenait à tout le monde. Et il finira par me dire que quand il partait à l'étranger, pour lui c'était... Il essayait d'en sortir de cette communauté. C'était pour lui un moyen de sortir de cette communauté et qu'il songeait en sortir même avant de me rencontrer. Et donc, à travers les voyages professionnels, ça lui permettait d'être à distance et de sortir de cette communauté. Donc, je me refais le film de tout et c'est à ce moment-là que je comprends tout. C'est à ce moment-là que je décide de saisir la Miviludes. C'est un organisme d'État de contrôle des sectes. C'est-à-dire que quand une personne, quand on estime qu'un membre de sa famille ou un ami est sous emprise, on contacte la Miviludes qui fait des enquêtes et qui a des moyens d'action. Sauf que je comprends très vite que la Miviludes a finalement très peu de moyens d'action sur l'emprise émotionnelle. Par contre, elle peut mettre en œuvre des moyens lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a vraiment des délits, des viols, ce genre de choses. Et la Miviludes, on finira par me dire qu'ils avaient été dénoncés. Que la communauté de mon mec, que j'estimais être une communauté mais qui était véritablement une secte, là je peux plus le cacher, je peux plus faire l'autruche. Et je comprends, et c'est douloureux parce que je comprends que j'ai fait l'autruche, et je comprends dans quoi je suis tombée. Et donc la responsable de la Miviludes me dit qu'effectivement tout était lié. La Miviludes, elle est tenue par le secret, mais elle a fini par me dire qu'ils ont été dénoncés par le compagnon d'une personne qui avait assisté à une de leurs réunions. Et le gourou avait conseillé à la victime, entre guillemets, d'aller se prostituer pour découvrir qui elle était. Et donc j'ai été profondément choquée. J'ai compris que le prénom du gourou que je pensais être celui-là n'était pas celui-là, que son nom de famille n'était pas celui-là, que tout ce qu'avait pu me dire Marc sur le gourou d'officiel était faux, en fait. C'était très douloureux de comprendre tout ça. Je me suis dit, j'ai vécu dans un mensonge. Et un des derniers échanges que j'ai avec Marc, je lui dis, mais j'ai l'impression que tu m'as menti pendant 4 ans, que je ne te connais pas. Et donc, je suis dévastée. Je me dis, mais j'ai vécu dans le mensonge. En même temps, je me dis, mais non, mais je sais qu'il est amoureux de moi, je le sais. Ça, il n'a pas pu faire semblant. Je le sais au fond de moi et je le sais encore qu'il était profondément amoureux de moi. Je lui écris et je lui dis, mais ta secte et ton gourou, ils voient pas que tu es amoureux de moi, que tu pourras jamais vivre sans moi. Il ne le voit pas, tout ça. J'étais tellement mal, mais j'avais aussi peur qu'il se fasse du mal, parce que je le savais fragile émotionnellement. Et donc, progressivement, je parviens à m'en extraire un peu, à finalement à faire mon coming out à ma psy sur ce qui s'était passé, à m'informer sur les sectes, à regarder des documentaires, et je voyais tous les points communs, et accepter le fait que je n'ai pas voulu voir, et que finalement, moi aussi, j'étais un peu une victime collatérale de cette secte, à accepter... qu'en dépit de ça, je suis encore très amoureuse de lui, mais que j'ai ouvert les yeux à comprendre en dépit de tout cela, je suis quelqu'un de très fort, en dépit de ce que je pouvais croire. Et ça m'a appris la résilience, clairement. Je me suis reconstruit par la thérapie, par le yoga que j'ai intensifié. Et je pense que vraiment sans le yoga, même plus que la thérapie, je pense que ça a été très très compliqué. Je pratique 4-5 fois par semaine. Et j'ai les yeux bien plus ouverts. Ça m'a appris qu'il fallait vraiment discuter, communiquer. Si je devais retenir quelque chose de ça pour ma prochaine relation, c'est vraiment communiquer et pas faire semblant, quoi. Le deuil a été très long parce que c'est encore récent. Mes amis m'ont poussé à aller à faire des rencontres, mais en fait, j'attends vraiment d'être prête et je fais confiance à la vie pour rencontrer quelqu'un le moment venu. Je veux témoigner de cette histoire parce que j'ai vécu une histoire d'amour vraiment extraordinaire. En dépit de la secte et de la communauté, je pense que l'amour que j'avais pour Marc et l'amour pour moi qu'il avait été extraordinaire et que quand j'en parle encore aujourd'hui, je souris. Et je voulais aussi témoigner parce que au-delà d'un amour extraordinaire qu'on peut communément vivre, je crois que c'est pas très commun aussi d'avoir un homme qui fait partie d'une secte et d'avoir une secte finalement qui arbitre la relation amoureuse. Et donc je pense que c'est important de le dire et que ça peut toucher vraiment tous les milieux socio-professionnels. Moi, la première qui, en tant qu'avocate, voilà, j'ai un peu honte, mais c'est la vie. Et de faire attention, aimer, mais aimer en toute conscience, ouais, si je devais résumer.
Si vous aimez les histoires intenses, découvrez notre nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. Merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Agathe Soro de l'avoir monté et mis en musique.